Il est 15h, vous écoutez Fréquence Mistral et c'est l'heure de l'émission des lecteurs sur les toits. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir près de moi Nelly, Nathanaël et Robert. Donc, nous allons vous présenter 6 livres. Le premier sera Douleur de Zerouya Chalev, paru chez Gallimard. Puis La petite fille au ballon de Colette Berthès. Viendra une bande dessinée Un million d'éléphants de Jean-Luc Cornette et Vanida. Puis Dans le miroir du Caravage de Francesco Fiorelli. Révolté d'Eve Gagna La Roslaxcavaya Marcon. Et Esprit d'hiver de Laura Kasichke. Donc, nous commençons par un livre qui s'appelle Douleur
de Zerouya Chalev, qui nous a été conseillé et présenté par notre lectrice Françoise, qui peut hélas ne pas être là pour cause de douleur à la gorge. Et elle nous a présenté ce roman qui est un vrai roman qui raconte une vraie histoire avec un début, un déroulement et une fin.
On est à Jérusalem. Iris doit avoir un peu plus de 40 ans. Elle est directrice d'école dynamique qui cultive l'excellence professionnelle.
Elle est aussi une épouse et la mère de 2 grands adolescents, avec les bonheurs et les soucis de toute famille qui existe.
Une situation qui serait banale si Iris, il y a juste 10 ans, lorsque commence le livre, n'avait pas été très violemment blessée dans un attentat en ville, accident qui, outre sa gravité, a profondément traumatisé toute la famille, chacun se culpabilisant d'avoir un peu contribué à ce qu'Iris soit au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous allons vous lire un petit bout de cette situation.
S'il n'y avait pas eu ce changement de dernière minute, c'est lui qui aurait été à sa place. Lui qui aurait été propulsé dans l'air enflammé, tel un immense astéroïde, et se serait fracassé au milieu des corps calcinés.
Oui, pourquoi n'avait-il pas emmené les enfants à l'école ce matin-là comme d'habitude ?
Elle se souvient d'un coup de téléphone affolé du bureau, une panne informatique, tout le système qui avait planté.
Dire qu'il avait insisté pour les conduire quand même.
Mais Omer n'était pas encore habillé. Il sautait en pyjama sur leur grand lit, alors elle avait préféré s'épargner les heurts et les remontrances. « Laisse, je vais les conduire », avait-elle proposé. Ce qui n'avait, bien sûr, évité ni la rituelle bagarre du matin, le garçon s'était enfermé dans les toilettes et refusait d'en sortir, ni les larmes d'Alma, qui serait en retard à cause de lui.
Déjà épuisée, elle les avait déposées devant le portail de l'école. De là, elle avait accéléré pour remonter la rue bruyante, avait dépassé un bus arrêté à sa station, et soudain, le pire bruit qu'elle ait jamais entendu avait frappé ses tympans, suivi d'un silence total.
Assourdie, non pas par la puissance de l'explosion,
jaillissement quasi-volcanique de matière inflammable, de vis, de clous et d'écrous mélangés à de la mort aura pour augmenter les saignements,
mais par une autre voix, plus profonde, plus effroyable encore. Celle des dizaines de passagers brutalement arrachés à la vie.
Les sanglots des mères qui laissaient de petits orphelins.
Les cris des fillettes qui ne grandiraient pas.
Les pleurs des enfants qui ne rentreraient plus chez eux. Et des hommes qui se séparaient de leurs femmes.
Elle a attendu la lamentation des membres déchiquetés.
De la peau carbonisée.
Des jambes qui ne marcheraient plus.
Des bras qui n'étreindraient plus.
De la beauté enterrée sous les cendres.
Et cette lamentation-là,
voilà qu'elle entend de nouveau. Alors, comme vous l'avez pu lire, c'est terrible. Iris est guérie, elle mène une vie normale, mais elle est en proie à de violentes douleurs soudaines. Et l'intervention, du coup, d'un spécialiste s'impose. Et le hasard va faire que le grand médecin spécialiste de la douleur, avec lequel elle a rendez-vous, se révèle être Omer, son premier petit ami, qui à l'époque est simplement parti, perdu dans le silence de la vie.
Au-delà de la seule personne d'Iris, cette rencontre va bouleverser la vie des 4 personnes qui constituent la famille d'Iris. Douleur raconte ce tsunami qui, grâce à l'authenticité de chaque personnage, va au final faire grandir chacun.
L'écriture est sobre, les dialogues puissants sans jamais tomber dans le mélo, Rien n'est ostentatoire, les sentiments sont toujours là, même si en filigrane ce n'est pas un livre sur Israël, mais l'on vit à l'heure de Jérusalem tout au long du récit.
Françoise nous a dit que c'était un très beau livre poignant. Sans doute en partie parce que Zouraïa Chalev a, elle, justement, été légèrement victime dans un attentat à Jérusalem.
Zouraïa Chalev, pour parler un petit peu de l'auteur, elle est née en 1959 en Israël, dans une famille qui vivait dans un kibboutz et comptait plusieurs écrivains. Elle a étudié la Bible et la littérature que sa famille valorisait au plus haut point. En janvier 2004, elle est victime d'un attentat suicide. Elle est seulement légèrement blessée, mais 10 personnes sont mortes dans l'attentat. Douleur est son 5e roman. Elle est sans doute à ce jour l'un des écrivains majeurs d'Israël. Son roman précédent, Ce qui reste de nos vies, a été lauréat du prix féminin étranger en 2014. Alors, comme dans notre émission, on rend un petit peu compte de ce qui s'est passé lors de notre soirée du comité de lecture, il faut quand même qu'on dise un petit bémol dont nous a parlé Gérard. Donc, Gérard est un de nos lecteurs. Et lui, ce livre, eh bien, il lui est tombé des mains. Il le trouvait trop psychologisant, comment on pourrait dire,
trop psychologique, oui, trop. Il lui préfère de loin Amos Oz, qui est le deuxième grand écrivain d'Israël.
Donc, voilà, faites-vous votre idée, n'hésitez pas à lire Douleur de Zeruya Chalev, édité chez Gallimard et qui a été édité en 2017.
Donc le livre dont je vais vous parler, Fait du hasard, se passe, lui, en grande partie en Palestine. Mais là aussi, il y a un attentat suicide à Jérusalem. Il a été écrit par Colette Berthès. Son titre, c'est La petite fille au ballon. Il est paru aux éditions Rive-Neuve. L'auteur, qui voyage entre son Quercy natal et le Proche-Orient, est très engagé dans la défense des droits de l'homme. Ces deux livres précédents sont relatifs, le premier aux républicains espagnols internés et le second sur la justice au Texas et la peine de mort. Celui que je vous présente concerne la vie en Palestine actuellement avec des retours sur l'histoire passée de la Palestine. Le point de départ est l'attentat suicide à Jérusalem d'une jeune avocate palestinienne qui se fait exploser en pleine rue dans un bar tuant plusieurs personnes. Sa mère, Leïla, va être bouleversée par la mort de sa fille et elle décide de mener une enquête de Bethléem à Hébron en passant par Ramallah pour essayer de comprendre pourquoi sa fille a commis un tel acte. Elle n'arrête pas de revivre la scène de l'attentat. C'est l'objet du premier extrait que je vous lis maintenant. Elle s'était déjà 1000 fois passée en boucle la scène de l'opération menée par sa fille. Les rues de la Jérusalem juive, larges et propres, pas comme celles de leur ville, jonchées de papiers, de sacs plastiques noirs que le vent et les gens dispersent ici et là, des rues animées à la fin du Shabbat, la terrasse du café, bondée de jeunes gens, des soldats pour la plupart. Elle voyait Amal, c'est sa fille, marcher dans la ville inconnue. Comment avait-elle trouvé l'endroit où mener son opération? Lui avait-on désigné? Sinon, avait-elle choisi au hasard? Elle la voyait s'avancer, traverser la foule, frôler les tables de la terrasse du café. Les gens souriaient, parlaient, insouciants. Puis, plus rien. Il eut impossible d'imaginer les dernières secondes, celles où tout avait explosé, où son corps, son si joli visage, avait éclaté en milliers de morceaux. La suite, elle l'avait vue à la télévision, lors de chaque opération suicide. Les cris, le sang, les ambulances, les morts recouverts d'une couverture, les blessés soignés à même le sol, les pleurs, l'horreur absolue, les mots d'incompréhension et de haine, l'inimaginable. Pour essayer de comprendre pourquoi sa fille avait agit ainsi, elle va remonter dans la vie de sa fille pour trouver les événements qui pourraient expliquer cet acte. Le premier événement est tragique. Il fait l'objet du deuxième extrait que je vous lis maintenant. Il fallait commencer par le plus simple, le plus visible, ce qui avait meurtri Amal, l'avait pendant des semaines coupé du monde, avait mis son esprit et sa vie en danger, la mort de son père, la mort de Nidal, c'est son père, laissant une veuve et des orphelins, une mort stupide, une mort qui n'aurait pas dû arriver s'il avait vécu dans un pays normal, un pays libre, un de ces pays où les gens meurent d'accidents, de la route, du cancer, de trop manger ou simplement de vieillesse. En tout cas, un de ces pays où on laisse aux gens le temps de vieillir, pas un pays où vous pouvez être tué par erreur sur une route en pleine jeunesse en rentrant de faire des courses. Effectivement, le père de Amal avait été tué par un soldat sans raison majeure. Le père de Amal était sorti de sa voiture et le soldat israélien, parce qu'il avait du pain à la main, avait cru qu'il avait une arme à la main. Leïla, la mère, va aussi chercher dans son comportement ce qui pourrait expliquer le geste de sa fille. Là, je vous lis un troisième extrait à ce propos. Une idée me ronge. Je me demande quelle erreur j'ai fait pour que cela arrive. Il me semble que je ne retrouverai la tranquillité que si je découvre pourquoi elle a agi ainsi et qui l'a poussée. C'est horrible pour une mère de se dire que l'on n'a rien compris à son enfant. Que sa fille est devenue une étrangère dont on ne sait plus ni les rêves, ni les peurs, ni les besoins. Quand je pense combien elle se confiait à moi, me racontant par le menu ses journées, ses pensées, ses désirs, je me sens coupable de n'avoir pas pu empêcher son acte, et de cet acte, je ne tire aucune gloire. Je suis sûr qu'aucune mère de martyr tuée lors d'un attentat suicide ne peut accepter la mort horrible de son enfant. Ces femmes mentent quand elles se montrent glorieuses devant les caméras de télévision. Mais sans doute que ce mensonge est tout ce qu'elles possèdent pour rester fidèles à l'amour qu'elles portent à leur enfant. Qui sait ? Je me sens coupable aussi de ce que je n'ai pas fait pour l'empêcher d'agir. J'aurais dû savoir. Je sais aussi que je ne guérirai jamais de mon chagrin. Dans le dernier extrait, elle s'adresse à une amie de sa fille, Rania, et fait un retour en arrière pour arriver à l'époque actuelle. Donc je vous lis ce dernier extrait. Donc elle parle à une amie de sa fille, Rania. Que te dire ? Que sans doute tu n'as pas tort. Mes grands-parents espéraient revenir dans leur village natal. Nous avons conservé les clés des maisons jusqu'à ce jour. La génération de mes parents rêvait de retrouver un pays par la lutte armée. Un pays où tous, quelle que soit la religion, pourraient vivre ensemble. La mienne a cru à la résistance non violente, puis à la diplomatie et aux accords de paix. Nous avons tout essayé, même faire confiance à Israël, malgré ce que l'histoire nous avait enseigné. Mais vous, les jeunes, que vous reste-t-il ? Des lambeaux du pays, coincés entre les colonies juives, les routes de contournement et les zones militaires. Et pour consolation, la religion et le retour aux traditions pour la majorité des gens, ou vivre à l'occidental pour ceux qui sont riches et peuvent s'échapper de cet enfer de temps en temps, avec l'autorisation des occupants. Avec la mort d'Amal, je n'avais jamais réfléchi de cette façon. J'avais mon travail, mes amis, ma famille, mes enfants. Je luttais au jour le jour pour leur apporter la meilleure vie possible, résister juste en étant là, en vivant, en n'abandonnant pas. Cela me semblait la meilleure voie. Maintenant, je ne sais plus. Pourtant, ma chère Rania, non. Je ne voudrais pas pour toi du sort de ma fille. Quoi qu'il arrive, elle n'a pas eu raison. Sa mort ne nous rapproche pas d'un jour de la résurrection de notre pays. Longtemps, j'ai pensé qu'il suffisait d'avoir deux pays, de bien les séparer par des frontières, un mur, pourquoi pas. Chacun chez soi, et peut-être un jour, dans très longtemps, arriver à vivre ensemble, sans haine, en paix. Je connais un vieux militant qui pense qu'on ne peut plus séparer les deux peuples, que les cousins doivent enfin vivre sur la même terre, mais qu'il faudra des dizaines d'années pour que meurent les haines. Mais quoi qu'il arrive, le pays aura besoin de ses enfants, donc de toi et des enfants à qui tu donneras naissance, Rania. Je te souhaite la vie. pas l'amour. Excusez-moi, là je suis ému. Bon, c'est un livre, vous vous rendez compte, qui est fort, qui nous rappelle l'histoire lointaine ou récente de la Palestine, avec son cortège de guerre, d'occupation, d'intifada, d'espoir, de paix et de désenchantement. D'une société déchirée qui aspire à vivre libre. Je rappelle le titre, La petite fille au ballon, l'auteur Colette Berthès aux éditions Rive-Neuve. Merci.
Je vous présente maintenant une très belle bande dessinée qui s'appelle « Un million d'éléphants » de Jean-Luc Cornette, illustrée par Vanida, parue chez Futuropolis il y a quelques mois. À travers cette histoire, c'est toute l'histoire d'un peuple, l'histoire du Laos de 1935 à nos jours, qui nous est racontée. Je suis allée au Laos il y a 2 mois et ce livre m'a vraiment beaucoup plus parce que j'ai retrouvé des paysages, des atmosphères qui m'ont voilà, j'ai retrouvé des atmosphères. Cette bande dessinée a été inspirée par la famille, par l'histoire de la famille de Vanida, dont le père est exilé et maintenant a pris un nom français. Il s'appelait Tong Lit Fonsava. Et maintenant, il s'appelle François Savatier et il est sculpteur. À la fin de la bande dessinée, Jean-Luc Cornette a choisi de faire tout un petit livret c'est un carnet de voyage, sur les gens qu'il a rencontrés et qui ont donc inspiré cette bande dessinée. Et ceci est introduit par la petite biographie qu'a fait François Savatier, donc le père de Vanida, que je vais vous lire. L'histoire la plus ancienne que je connaisse, c'est celle de mon grand-père que racontait mon père. Il était cultivateur et chasseur. Il posait des pièges à tigres dans la forêt. Un piège qui, lorsqu'il se déclenche, enfonce une pointe en bambou dans sa victime. Il récitait des formules magiques qui lui donnaient le pouvoir de rendre sa peau résistante aux couteaux et aux lames de toutes sortes. Mais voilà, il est tombé dans son propre piège. Grâce à la formule magique, la pointe de bambou ne l'a pas transpercé, mais la violence du coup a frappé. Il n'avait pas pensé à tout, car il est mort peu de temps après d'une hémorragie interne. Kien Hun, mon père, est né en 1925. On l'appelait Papi Hun. Il habitait dans le village de Ban Na, à 60 km de Luang Prabang. Il était militaire dans le bataillon des chasseurs laotiens, et peut-être a-t-il fait Dien Bien Phu avec les Français. Musicien par vocation, il s'est engagé dans la garde royale à Luang Prabang. Il fabriqua lui-même son violon traditionnel à 2 cordes, un so-i. Ma mère, Soufan, était cuisinière de plats préparés qu'elle vendait au marché. Elle cuisinait aussi pour des fêtes au palais. Le roi à l'époque était Sisavang Phong. Ensuite, lui succéda le dernier roi, Savang Vatana, qui fut destitué du temps du communisme et disparut avec toute sa famille. Je suis né le 10 avril 1950 à Luang Prabang. Et c'est donc signé Tong Li Fonsavat, militaire, alias François Savatier, sculpteur. Donc on va suivre le destin de tous ces personnages qui vont suivre des voies différentes. Certains vont partir en exil en France ou au Canada. Et dans ce pays tourmenté, les jeunes gens qui sont partis au Vietnam pour faire certainement Dien Bien Phu se posent des questions. Tu crois qu'on a fait le bon choix? Et son copain lui répond: tu crois qu'il y en a un bon? parce que dans ce pays divisé, les choix ne sont pas faciles et quels qu'ils soient, c'est la misère qui les attend. Un autre dit, c'est un jeune Hmong, donc les Hmong c'est des tribus, c'est une tribu du Laos qui a aidé les Français et les Américains pendant la guerre et qui en subit encore les conséquences. Cette montée en puissance du communisme, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour l'avenir des Hmong. Voilà. C'est un pays qui a été énormément bombardé. Et à la page 38 de la bande dessinée, on est en 1968. Et on nous explique que les avions américains larguent leur surplus de bombes dans les campagnes du Laos pour ne pas risquer d'exploser en atterrissant au Cambodge. Et le Laos, c'est le pays qui a été le plus bombardé au monde. Dans les années 70, il y avait une bombe qui explosait toutes les deux minutes au Laos. Et voilà, donc c'est une bande dessinée sur toute cette problématique de ce pauvre pays, toujours pris entre deux feux, si on peut dire. Et donc on voit aussi l'exil en 1975, lors du coup d'État, les heures du roi sont comptées, on change de drapeau. On massacre les populations villageoises, les gens n'ont plus comme solution que l'exil ou la mort. Les gens se réfugient en Thaïlande, ils franchissent comme ils peuvent la frontière, ils attendent le départ, beaucoup meurent dans les camps. Et voilà, c'est vraiment un pays à un triste destin. Mais la dernière planche du livre apporte une note d'espoir. Sur la planche, on voit un des personnages qui revient au pays après un long exil en France. Un éléphant passe dans la rue avec un cornac, et voici le dialogue. « Tu sais ce qu'on dit à l'éléphant pour le faire avancer, Elixia ?»« J'ai oublié. »« Pai Pai, c'est le mot magique qui fait avancer les éléphants et le Laos. » Voilà, donc on finit quand même le livre sur une note d'espoir. Les illustrations sont magnifiques, certaines sont de véritables tableaux. Donc je vous engage très fortement à lire cette très belle bande dessinée qui s'appelle « Un million d'éléphants » de Jean-Luc Cornette, illustré par Vanida.
Donc moi, je vais changer de deux siècles en allant au XVIIe siècle à Rome avec « Dans le miroir de Caravage » de Francesco Fioretti aux éditions Hervé Chopin, Paris, 2016. Traduit de l'italien par Chantal Moiroux et publié en Italie en 2012. Ce très beau livre n'est pas vraiment une biographie de Michelangelo Merisi, dit le Caravage, mais plutôt un roman. À partir de la disparition du peintre en juillet 1610, tout n'est que conjecture. Le récit commence en 1604, quand Anna, appelée aussi Annuccia, une prostituée et modèle de Michele, le Caravage, est assassinée. Il en fut très affecté et plaça immédiatement son corps sur un lit de son atelier et peignit ainsi la mort de la Vierge, un tableau qui se trouve au musée du Louvre. La vie à Rome est très dure à cette époque, avec la domination espagnole sur Saint-Pierre et l'Italie, plus la guerre de religion. Le grand talent de Michele est reconnu par tous, mais il y a des jaloux et ces tableaux qui sont commandés pour les églises sont plutôt mal payés et parfois rejetés à cause de la façon dont ils traitent le sujet. On l'attaque souvent quand il sort, mais il sait bien se battre. Et il a un grand ami qui lui évite souvent la prison en la personne du cardinal Del Monte, un homme ouvert et astucieux. Un duel n'a pu être évité avec Ranuccio Tomassoni, l'assassin présumé d'Anna, lequel est blessé à mort par notre peintre. Alors, il doit quitter Rome où sa vie est en danger et part avec Léna, une autre prostituée, aussi son amie et son modèle. Elle devra retourner à Rome où elle a laissé son jeune fils et Michele voyagera pendant 4 ans, de Naples à Malte, en Sicile et de nouveau à Naples. Ensuite, le cardinal Del Monte élabore des plans pour sauver et réunir Michele et Léna. Cette dernière étant aussi en danger à Rome à cause de choses qu'elle sait sur les courtisanes. Le peintre Marco Tullio essaie de l'empoisonner en ajoutant de la belladone à son vin. Le cardinal organise l'enterrement de Léna, qui, bien vivante, ne sera plus en danger. Cela paraît invraisemblable, mais on est au début du XVIIe siècle. J'aime beaucoup le style de ce roman. Chaque chapitre commence par l'illustration d'un tableau autour duquel tournent les récits. Un récit en italique où le Caravage raconte sa vie et un autre où le narrateur parle. Ça a été très difficile de choisir un extrait car tout le livre est fascinant. Voici quelques lignes du texte de Michele, où il parle d'Anna, la prostituée qui est morte. Anna et Philide étaient arrivés ensemble à Rome en 1583, un samedi de février où il pleuvait fort. Leur mère, veuve, les avait amenées toutes les deux se vendre dans l'Urbs, parce qu'elles étaient si pauvres qu'il n'était pas possible de leur payer une dot pour les marier ou les installer dignement au couvent. Une femme majeure, qui n'est ni mariée ni nonne, est déjà, par définition, une prostituée. Alors, autant venir tenter sa chance dans le centre de la chrétienté, au moins de la chrétienté catholique. À Rome, fût-ce sous la robe de cardinal, vivait la fine fleur de la noblesse italienne, voire même européenne. À Rome, on pouvait faire fortune, mais il fallait prendre la bonne voiture, fréquenter les milieux haut placés, sinon on restait dans la rue. Sinon, il fallait choisir comme maquereau le premier hôte venu et espérer que pendant l'année du jubilé, un pèlerin quelconque, lassé du long voyage, décide de dépenser avec vous les quelques sous qu'il avait apportés pour s'acheter le paradis. Philide avait fini par monter dans la bonne voiture, où elle avait séduit Ranuccio Tomassoni. Et les Tomassoni, c'était bien connu, ouvraient toutes les portes. Et quand Ranuccio l'avait quittée pour cette garce peureuse de Prudencia Zacchia, elle avait fini par se caser avec un noble héritier des Strozzi Florentins. Philide s'en est donc sortie, mais pas Anna. Annuccia était moins jolie et assurément rétive aux belles manières, trop instinctive, trop viscérale pour pouvoir faire belle figure dans les festins secrets des cardinaux. Et maintenant, je vais vous lire encore quelques lignes alors, du passage du narrateur qui parle justement de la mort de cette Anna ou Annuccia. Mais voilà qu'à la 4e heure du jour, quelqu'un frappa à la porte et que Cecco, son assistant, alors âgé de 14 ans, alla ouvrir. C'était Philide, la grande courtisane, les larmes aux yeux. « Appelle Michele, tout de suite, je dois lui parler. Annuccia est morte. » Sans attendre, elle entra, dépassa Cecco et arriva la première dans la loggia. « Annuccia est morte, » répéta-t-elle dès qu'elle le vit. Michele se glaça. Il resta un instant étourdi, une louche dans la main droite et la queue d'une casserole dans l'autre main. Conscient soudain de la vanité de ce qu'il était en train de faire. Annuccia avait 24 ans, et la veille encore, elle allait bien. Cela ne pouvait pas être vrai, elle ne pouvait pas être morte. « Et de quoi ? » demanda-t-il aussitôt. Le médecin qui est venu parle d'éclampsie, cette attaque incurable de convulsions qui frappe parfois les femmes enceintes jusqu'à les étouffer.
Mais ce n'est pas possible, elle n'était pas enceinte.
Elle a le ventre gonflé et le médecin du gouverneur était pressé. Mais Nikoucha est avec elle en ce moment.
J'envoie Checo chercher Giulio Mancini, qui est certainement un meilleur médecin. Et nous allons chez elle tout de suite.
Voilà, ça c'était donc la mort d'Annuccia. Et voilà, c'était donc Le miroir du Caravage de Francesco Fioretti aux éditions Chopin 2016 au prix de 19,90 €. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que je recommande.
Je vais vous présenter Révolté d'Evgenia Yaroulavskaya Marcon. C'est un récit sans concession, et je vais vous dire l'avertissement que nous fait notre Révolté. Avertissement, ne soyez ni étonnés ni troublés par ma sincérité. Autre avertissement. Je n'écris pas cette autobiographie pour vous, messieurs des services de police. Si vous étiez les seuls à en avoir besoin, je n'aurais jamais commencé à l'écrire. J'écris pour moi. Écrire pour falsifier la réalité, ça n'a aucun intérêt, d'autant plus que je n'ai rien à perdre. Voilà pourquoi je suis sincère. En effet, pourquoi cette jeune femme n'a rien à perdre? Parce qu'elle est aux îles Solovki et elle est condamnée à mort. Mais je vais d'abord vous raconter son histoire, comment cette jeune femme qui est née au début du siècle, qui est fort jeune lors de la Révolution, qui est issue de la très bonne bourgeoisie juive, son père est professeur dans les universités, arrive avec cette révolution à être complètement au tout début en phase avec elle. Elle se prive de manger, elle va à toutes les manifestations, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'en fait, la révolution va être confisquée. Elle se marie, parce que c'est une intellectuelle, avec un jeune homme qui est un poète, un philosophe, et qui s'appelle donc Alexandre Yaroslavski. Cet Alexandre Yaroslavski épouse bien sûr, un, les idées de la révolution, deux, lui aussi, il a l'impression que la révolution vient d'être confisquée par ce qu'on va appeler les apparatchiks. Il est un des fondateurs du biocosmisme. Alors là, j'en avais fait la lecture au lecteur du comité parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. C'est une philosophie un peu folle que je ne pensais pas pouvoir être présente en 1917. Alors, les principes du biocosmisme sont la liberté absolue de l'individu et de son œuvre, y compris la liberté de se déplacer dans l'espace, le pouvoir de créer et de recréer l'univers, de contrôler le temps, et l'idée centrale est le progrès de l'humanité pour atteindre par des méthodes scientifiques, attention, l'immortalité personnelle de chaque individu, la résurrection des morts, toujours par des méthodes scientifiques, attention, et le peuplement du cosmos par les humains. On est dans les années 20, 21, 22... Ils vont créer une revue, la revue notamment Biocosmiste, qui ne va pas tarder à être targuée de pornographie par le présidium du comité exécutif de Petrograd. Là, les ennuis commencent. Ils vont bien essayer de voyager, de faire des conférences à Paris, à Berlin. Elle suit son poète philosophe de Marie dans toutes ses pérégrinations, mais elle serait bien restée en Europe de l'Ouest, mais lui, il sent que quand même, il faut faire quelque chose pour les pays et il a la mauvaise idée de rentrer en Union soviétique. Évidemment, il ne va pas tarder à être arrêté. À partir de ce moment-là, notre pauvre Evgenia, qui est toute seule, son, ses parents vont pouvoir émigrer et se sauver. Elle va rejoindre les seuls vrais révolutionnaires à ses yeux, c'est-à-dire la pègre, les voleurs et les prostituées. Et elle a eu un accident. Elle en parle à peine dans son topographie, ça prend 2 secondes. En fait, elle n'a plus de pied. Mais ça paraît un détail dans son autobiographie, ça me paraît, elle n'a plus de pied. Mais du coup, elle va décider de vendre des journaux au milieu de ses prostituées, de ses... Et voilà ce qu'elle nous dit pour cette période-là. Que ce soit clair, j'ai rallié le monde des voyous, non pas comme on va chez des jeunes frères pour les enseigner, non. J'y suis allée pour apprendre leur métier de voleur, leur éthique de voleur. Et j'avais l'intention, non pas de leur apporter quelques nouvelles doctrines, mais de redonner vigueur aux vieilles lois du milieu régnant déjà chez eux, mais devenu vacillant depuis quelque temps. Haine implacable envers les cognes et les mouchards, amical esprit de partage, entre affranchis, etc. Pendant un moment, je fus même obsédée par l'idée excentrique d'une journée pour la bonne cause, ou plutôt d'une nuit. Une prostituée pour un malfrat. À l'époque, une bonne moitié des truands de la place de la Passion avaient été fauchés par les arrestations. Aussi proposais-je que les prostituées versent leurs gains d'une nuit pour envoyer des colis aux camarades bouclés. Mais cette idée se révéla irréalisable, du fait qu'on ne connaissait les absents que par leur nom de guerre, et non par celui figurant dans leur fafio. J'imagine que par ce mot, elle veut dire par leur, en fait, par leur registre d'état civil. Alors, à quel nom adresser le colis qu'on allait apporter au mour, la prison? Donc voilà notre chère Evgenia. Bien sûr, elle va pas pouvoir rester, puis elle apprend que son mari est aux îles Solovki. Donc elle va faire plus trop des pieds, mais on va dire des prothèses et des mains, pour se mouvoir jusqu'à lui et arriver là-bas. Évidemment, au bout d'un moment, elle se fait repérer, elle pratique l'anti-bolchevisme et elle va se faire arrêter. D'ailleurs, voilà l'interrogatoire, parce que toutes les archives ont été conservées dans ces îles, donc qui était un peu le premier goulag russe. Et donc, tout a été retrouvé par un auteur que certains connaissent, qui s'appelle Olivier Rollin. Donc, il a vraiment tout retrouvé. Donc, voici l'interrogatoire où Evgenia nous parle. « La classe à laquelle j'appartiens, selon moi, est celle de tous les déclassés, aussi bien les criminels de droit commun que les intellectuels asociaux, et en règle générale, tous ceux qui méprisent l'opinion publique, la provoquant et luttant avec franchise pour affirmer leur individualité dans tout son éclat. » Je trouve la politique répressive du pouvoir soviétique à l'égard de la pègre d'une scandaleuse hypocrisie. Exiler, déporter, ce n'est pas résoudre le problème de la criminalité, mais l'éluder. C'est trahir un groupe qui, dès le début, a soutenu ardemment la révolution et n'a jamais été lié à aucune notion de propriété. J'ai sympathisé autrefois avec le parti des bolcheviks et j'ai même été pendant quelques mois, à partir de 1917, membre du groupe des Meijranzovti, qui se donnait pour but de réunir des fractions menchéviques et bolcheviques en un seul parti démocrate. Mais à présent, je n'admets aucune coopération avec un pouvoir soviétique qui discrédite les idéaux de la révolution et se cache hypocritement sous le nom des soviets, dont il ne fait en réalité aucun état, gouvernement sous les mots d'ordre d'une poignée d'intellectuels. Le comité central, cramponné au pouvoir. Dans ma lutte contre le pouvoir soviétique, je considère que tous les moyens sont permis, avec en premier lieu l'organisation d'insurrection paysanne. Il est également d'une extrême importance de mener une propagande parmi les unités de l'armée rouge, afin de convaincre les soldats de déserter, de regagner leur village natal avec leurs fusils et d'y constituer une force armée anti-bolchévique. J'irai même, bien entendu, jusqu'à accepter le soutien d'une intervention étrangère, mais je trouve cela superflu, car le pouvoir soviétique est déjà totalement pourri et s'écroulera probablement très vite. Alors, pas tout à fait, parce qu'on est qu'en 1922. Et notre chère Evgenia, évidemment, ça va pas louper, va se faire, vu ses propos, interner aux îles Solovki, dans la même prison que son mari. Sauf que son mari, tel que nous l'apprend une ordonnance, on va suivre peu à peu ce qui va se passer, qui va être dramatique autant au niveau de toutes les archives. Donc, elle apprend, alors qu'elle est internée, que son mari, condamné à la plus haute mesure, en fait, a été fusillé. Et les gros ennuis pour Evgenia vont commencer. Voici. Durant la lecture de la note énumérant les personnes condamnées à la plus haute mesure de châtiment, le nom du mari de Yaroslavskaya a suscité de la part de celle-ci les cris de « Bourreau, monstre, vampire, bientôt vous subirez tous le même sort, mais pas d'une balle, d'une bombe, ma vie n'aura plus pour but désormais que de porter préjudice au pouvoir soviétique. Dommage, mon mari n'aura pas assez vécu assez longtemps pour le voir renversé, mais je suis certaine de sa chute imminente. » La lecture de la note achevée, au moment où le camarade Nikolski quittait le baraquement, Evgenia a frappé ce dernier à la jambe d'un coup de prothèse. Par la suite, elle s'est livrée à la propagande anti-soviétique auprès des détenus, appelant ceux-ci à manifester contre le pouvoir soviétique et à refuser de travailler. Elle s'est écrite sur la poitrine en grosses lettres « Mort aux tchéquistes » et a demandé à ceux qui l'entouraient de lui tatouer cette phrase sur les seins. Les fémènes n'ont rien inventé. Évidemment, ça va très très mal se passer pour elle. Et nous allons avoir le récit d'un gardien, puisqu'elle va être elle aussi condamnée à mort, parce que évidemment elle va se rebeller et elle va tenter avec un petit caillou de frapper un de ceux qui lui annonçaient que son mari allait être fusillé. Et voilà le récit du gardien. Elle est avec énormément d'autres personnes. Tous vont être tués, achevés, mais vraiment, c'était une énorme boucherie. Le gardien nous raconte. Et voilà cette femme qui soudain s'affale de tout son long sur le sol dallé. Ses nerfs ont lâché. C'est la veuve du poète soviétique Yaroslavski, récemment fusillée pour tentative d'évasion. Dans la cour de la forteresse, elle a lancé une pierre à Ouspensky, qui a fait exécuter son mari. Et maintenant, c'est pour ça qu'elle va mourir. J'entends dehors un bruit de bottes. Ce sont les bourreaux qui arrivent. Une main vigoureuse tire brutalement la lourde porte. Le premier à entrer est le bourreau amateur, le directeur du camp. Le camarade Ouspensky, il est venu en personne faire justice de cette femme pour un simple caillou. Yaroslavskaya, donc notre Evgenia, avait retrouvé ses esprits. Elle se releva péniblement, prend appui contre le mur, puis marcha droit sur Ouspensky. Celui-ci parut ravi de l'occasion qui lui était offerte de se sortir de son angoisse et il l'injuria dans les termes les plus abjects. « Alors, maintenant c'est à toi de suivre le même chemin que ton mari. » « Regarde, c'est avec ce revolver-là que j'ai collé une balle dans la tête d'imbécile de ton Yaroslavski. » Soudain, la femme se met à hurler et à tirer sur ses liens. Ouspensky la regarde et part d'un rire convulsif et forcé. Un fou semblant, il n'avait pas envie du tout de rire. « Détache-moi les mains, espèce de charogne galieuse !» hurlait Yaroslavskaya, hystérique, en progressant vers lui à reculons, comme si elle se sentait vraiment à ce qui lui délie les mains ligotées dans son dos. Puis soudain, elle se retourna brutalement, poussa un hurlement déchirant et lui cracha au visage. Ouspensky devint effrayant à voir. Vomissant des injures, il assomma la femme d'un coup de crosse de revolver et se mit à la piétiner alors qu'elle gisait sans connaissance. Alors ça a commencé. On prenait les gens du premier rang et on les emmenait. Je ne voyais pas la scène de l'exécution. Je n'entendais que les claquements secs des coups de feu tirés par les bourreaux et des bruits de voix indistincts. De temps à autre, le cri d'un de ceux qu'on tuait. Voilà, c'est un récit extrêmement poignant, puisque comme elle nous le dit au tout début, elle va dire tout ce qui lui arrive dans sa vie, vraiment avec beaucoup de lucidité. Et aussi, c'est un témoignage de vie de cette révolution qui s'est vue très vite confisquée par ce qu'elle appelle les apparatchiks, et toute cette douleur, très rapidement, de ce peuple russe qui se voyait donc les prostituées étaient raflées, emmenées, les voleurs, enfin les intellectuels, les premiers intellectuels, tous ceux qui osaient contredire le régime se trouvaient aux îles Solovki, qui est en fait un très très beau monastère du XVIIe siècle, bizarrement. Autant on imagine le goulag, enfin sans doute le goulag qu'avait connu Solzhenitsyne, très froid, très... Alors là, c'est terrible parce que vous avez des bulbes, c'est doré, c'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre d'architecture du XVIIe russe. Et c'est là-dedans que notre Evgenia, notre révoltée, va mourir. Donc j'ai trouvé ce récit poignant, très intéressant, Toutes les archives russes sont en train de s'ouvrir et en fait, les Russes conservaient tout. Donc, son autobiographie a été retrouvée avec son procès et avec toutes les notes. Voilà, donc c'était un peu une autre vision de 1917 par une révoltée qui, je crois que quand elle est morte, elle avait, je sais pas, elle avait même pas 25 ans. Enfin bon, voilà. Donc ça m'a beaucoup intéressée. C'est très bien documenté, les notes de bas de page sont très bien faites, ça aide vraiment à comprendre l'époque et ce milieu intellectuel qui est peu connu. Voilà, je vous engage à lire Révolté d'Evgenia Yaroslavskaya Marcon.
Rien à voir avec ce qui précède, je vais vous présenter moi un thriller psychologique qui s'appelle Esprit d'hiver, écrit par Laura Kasichke et qui est paru au livre de poche après être paru chez Bourgois en 2013, je ne sais plus la date. Il a obtenu le grand prix d'électrice de L en 2014. Alors je n'ai plus quitté ce livre dès que je l'ai commencé. Un jour de Noël, un matin de Noël, une mère et sa fille adoptive de 15 ans attendent l'arrivée du père, des grands-parents et des autres invités pour le repas de fête. Il neige dans le Midwest et la maison est coupée du monde. L'atmosphère est glaçante. En attendant, Holly prépare le déjeuner tout en se souvenant de ses deux voyages en Sibérie où elle est partie pour adopter Tatiana et en se disputant avec elle. Au fur et à mesure, le lecteur découvre de nouvelles pièces du puzzle de la vie d'Oli et de Tatiana. Cette si belle jeune fille aux longs cheveux noirs et à la peau si étrangement blanche aux reflets bleutés. Depuis qu'ils ont ramené Tatiana avec eux dans leur foyer, des événements étranges se produisent. La femme de ménage se blesse gravement, la fille d'une collègue meurt écrasée, les poules se mangent entre elles. Oli pense que quelque chose les a suivis depuis la Sibérie. Elle éprouve alors le besoin d'écrire. Elle, dont le rêve était de devenir une poétesse reconnue, mais elle ne trouve pas le temps. Elle parle de l'amour pour sa fille, des joies, des difficultés, des rapports familiaux. On suit les pensées d'Oli jusqu'au dénouement final, tragique. Les personnages concernant l'orphelinat de Sibérie sont saisissants. D'ailleurs, Poutine a récemment décidé d'interdire l'adoption d'enfants russes aux États-Unis. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman, non seulement pour l'intrigue, mais également pour le style de Laura Kasichke, qui est fait de métaphores. Et j'aimerais vous lire avec Nathanaël quelques passages où il y a des métaphores organiques frappantes. J'aimerais bien vous faire partager le passage du rôti. Voilà, alors le passage du rôti avec Nathanaël.
Dans le rôle de l'Adin.
Dans le rôle du rôti. Alors. Le rôti se trouvait tout au fond, comme emballé dans le sac plastique. Ces sacs ne sont pas biodégradables, ils ne disparaissent jamais de la terre. Ça, c'est la fille qui, la fille Tati qui dit ça à sa mère.
Et la mère lui avait lancé un regard noir avant de déclarer.
Il faut qu'il soit emballé dans du plastique, Tati, pour éviter que le sang coule partout dans le réfrigérateur.
Ce à quoi sa fille avait réagi en affichant une expression de dégoût encore plus théâtrale.
Sur le parking, Tati avait aidé sa mère à vider le caddie dans la voiture en évitant le rôti dans le sac en plastique que Oli avait jeté sur la banquette arrière.
Essayait-elle d'agacer sa fille ?
Où le paquet avait atterri avec un bruit sourd, ridicule, de guillotine. Tati était assise en silence à côté d'elle pendant que Oli manœuvrait pour sortir du parking. Mais une fois sur la route et la limitation de vitesse atteinte, Tatiana avait dit
Avant que les sacs en plastique existent, il devait bien y avoir un moyen d'éviter que la viande saigne partout dans le réfrigérateur.
Elle avait prononcé « saigne » d'une telle manière que Holly s'était attendue à ce que Tatiana lui annonce prochainement qu'elle était végétarienne.
C'est vrai, avait répondu Holly. Je parie qu'il y avait d'autres moyens, mais je parie qu'ils n'étaient pas aussi efficaces que les sacs en plastique.
Holly sortit la viande du réfrigérateur en la tenant à deux mains, comme s'il s'agissait d'un bébé endormi, et la posa, toujours dans son sac en plastique blanc, sur le comptoir de la cuisine.
Comme elle s'en était doutée, le fond du sac baignait dans le sang.
Un petit ruisseau de sang chemina sur le côté du plan de travail en granit, jusqu'au carrelage, près des pieds de Holly.
Holly vit le sang et décida de l'ignorer. Elle nettoierait ça plus tard. Le carrelage était rouge et le sang, aussi foncé que du sang de menstrue ou du sirop de cerise, y était camouflé.
À part elle, personne ne saurait qu'il était là.
Elle ouvrit le sac en plastique et découpa l'emballage en cellophane autour de la viande, souleva le rôti de la barquette en polystyrène et ôta la bande aux allures de protège-slip Kotex du dessous de rôti.
Puis elle souleva et plaça doucement la viande.
De nouveau, l'image du bébé endormi lui vint à l'esprit.
Dans le plat de cuisson qu'elle avait laissé la veille sur le comptoir. Donc vous voyez tous ces passages un peu sanguignolants, très bien écrits. Et il y a aussi, je vous ai dit tout à l'heure que Holly aurait aimé être écrivain. Et voilà, je vais vous lire un petit passage avec Nathanaël, un petit passage sur la douleur de l'enfantement littéraire.
Il y avait quelque chose dans tout ça, quelque chose au sujet de tout ça qu'elle craignait de ne jamais comprendre si elle ne trouvait pas le temps de s'asseoir à un bureau et de le découvrir en mots avec un stylo. Et pourtant, ce qu'elle était en train de faire, étreindre son enfant, l'empêcher de s'éclipser, de trouver un stylo et du papier ou d'allumer l'ordinateur.
Et quand bien même elle aurait eu le temps, alors quoi ? Qu'écrirait-elle ? Quelque chose les avait suivis jusque chez eux depuis la Russie ? Ça n'avait aucun sens, ça n'expliquait rien. Et Holly n'était plus écrivain, n'en était plus un depuis des années et des années, n'avait pas écrit une phrase décente ou un véritable vers depuis des lustres, depuis l'époque des repas servis pendant les vols, l'époque où on pouvait attendre à une porte que ses proches débarquent de l'avion et où les chasse-neige rugissaient dans les rues au premier faucon.
Holly savait qu'elle pouvait avoir tout le temps d'écrire au monde, en dépit de cette conviction qu'elle avait quelque chose à écrire, mais pas le temps pour le faire. Cela ne donnerait rien.
Combien de débuts avait-elle griffonné ces 18 dernières années ? Et combien de ces débuts n'avaient mené à rien d'autre que la frustration et une mauvaise humeur qui duraient des jours ?
Des centaines de débuts ne menant à rien.
Quel aurait été l'intérêt de briser son angoisse de la page blanche ? Rien de moins que le jour de Noël.
Et pourtant, elle ressentit le besoin de repousser en douceur sa fille.
Serrer Tatiana contre elle, lui demander ce qui n'allait pas, ça ne servirait encore à rien, ça ne mènerait encore à rien.
Sa fille, même si elle savait ce qui clochait, ne lui fournirait aucune explication à ses larmes ou au fait qu'elle broyait du noir et était maussade.
Si Holly insistait, elle réamorcerait simplement la dispute sur le fait que sa mère avait dormi trop tard ou à propos du sac en plastique. Ce serait une perte de temps pour toutes les deux. Voilà, donc je pense que, alors j'extrapole peut-être un petit peu, je pense que Laura Kosciuszko a mis un petit peu d'elle-même dans ce livre, évidemment pas pour ce qui va se passer par la suite, mais par rapport à la difficulté d'écrire, voilà. Donc je ne vous dirai rien de plus par rapport à ce livre, parce que je vous ai dit que régulièrement au cours de l'histoire, on nous délivre quelques puzzles quelques morceaux du puzzle qui vont faire qui vont aider à voir ce qui se passe réellement dans cette maison. Mais c'est vraiment un livre, je vous dis, si vous le commencez, vous ne pourrez pas le quitter. Ça s'appelle Esprit d'hiver, hiver comme la saison. C'est écrit par Laura Kosciuszko et c'est paru au Livre de Poche. Avant de vous quitter, nous voudrions vous faire part de quelques rendez-vous littéraires et culturels.
Alors, ce soir, à 19h au Théâtre Jean le Bleu, un spectacle de Julien Delmer d'après son recueil de poésie « Bogolan ».
D'ailleurs, le 16 juin, vous retrouverez également Julien Delmer, qui, je vous rappelle, est en résidence à Manosque actuellement, pour une lecture musicale de Regain, de Giono, mais revisitée
par Julien. Alors, je crois que, Robert, tu nous disais que c'était une lecture électro-acoustique de Regain. Enfin bon, en tout cas, le jardin est très agréable. Amateurs, n'hésitez pas à vous y rendre, parce que je pense que c'est une nouvelle façon de voir et d'entendre Regain.
Le 6 juin, à 18h30, à la bibliothèque de Pierre Vert, Nathanaël vous présentera quelque chose, elle va vous en parler elle-même.
Alors, au sein de la bibliothèque, il y a un fonds ancien. Et dans ce fonds ancien, il y a quelques livres un petit peu extraordinaires, et notamment ceux d'un archéologue qui est, en fait, le premier qui a fait des découvertes en Mésopotamie. On a fait très tardivement des découvertes archéologiques en Mésopotamie. Eh bien, sachez que c'est un Français d'origine italienne qui les a faites. Et donc, je vais vous raconter à Pierre Vert qu'est-ce qu'il a découvert, comment il les a découvertes, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Est-ce qu'elles sont au Louvre? Est-ce qu'elles sont arrivées jusqu'au Louvre? On est en 1848. Est-ce que les bateaux sont arrivés à bon port ou pas? Eh bien, vous le saurez si vous venez à 18h30 à la bibliothèque de Pierre Vert. Et bien sûr, les livres qui sont des relevés de fouilles magnifiques, qui sont énormes, seront présentés pour que les lecteurs puissent les admirer. Et je vous raconterai donc l'histoire de ces fouilles extraordinaires, les premières fouilles françaises en Mésopotamie.
Le 20 juin, à 10h, alors exceptionnellement, ce sera à 10h, le prochain comité de lecture, dans le jardin du Centre Jean Giono, nous recevrons Benoît Virot. Et on a mis le comité de lecture à cette heure-là parce que Benoît Virot ne pouvait venir qu'à ce moment-là. Et on tenait vraiment à le voir parce que c'est l'éditeur du Nouvel Attila, dont le roman Marx et la poupée de Myriam Majadi a obtenu le prix Goncourt du premier roman, là, il y a quelques jours. Et nous avions eu la chance de lire le manuscrit de ce livre pour le labo d'édition des dernières correspondances de Manosque, avant même donc qu'il soit paru, pour en discuter, pour savoir si c'était bien de l'éditer. Et donc, on avait eu raison de défendre ce livre. Et il apportera avec lui, Benoît, trois nouveaux manuscrits dont nous débattrons en public en septembre prochain. Donc, voilà. Donc, ne ratez pas ce rendez-vous du 20 juin à 10h au jardin du Centre Jean Giono.
Nous allons remercier notre technicienne.
Merci, Meline. Et il nous reste à vous souhaiter bonne lecture et à vous quitter et à vous dire au mois prochain. Au revoir.
Au revoir, à bientôt.